les deux philosophies du droit. Il y a la point de vue selon lequel le droit doit avoir uniquement comme fonction de sauvegarder des libertés individuelles, dans l'égalité et la liberté, point final, et un autre point de vue selon lequel le droit a aussi comme fonction de sauvegarder des biens communs. Et au nombre de ces biens communs, je place le respect d'une certaine structure familiale selon laquelle un enfant a un père et une mère, ou le respect de l'embryon, ou l'interdit de tuer. Donc il me semble que le droit n'a pas comme seule fonction la liberté individuelle, mais aussi des biens communs. Et donc, à mon grand étonnement, je remarque des gens qui se croient plutôt, disons, de gauche, quoi, socialistes, qui en principe devraient avoir le souci du bien commun d'abord, eh bien en fait, sont très individualistes, très libertaires, ultralibéraux dans ce domaine-là. Et donc, de l'autre côté, parfois, on voit donc davantage affirmer des valeurs qu'on dit conservatrices. Mais pour moi, le mot conservateur n'a pas un sens négatif.
Alors, l'euthanasie a fait sa réapparition dans l'espace public avec une campagne choc au cours de cette campagne électorale. On voit les principaux candidats sur des lits d'hôpitaux en phase finale. Est-ce que pour vous, c'est le moyen le plus opportun d'aborder ces thématiques ?
Non, absolument pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans parce qu'on joue sur les mots. Et souvent, donc, on appelle choisir le moment de sa mort une démarche qui relèverait du suicide assisté, donc qui enfreindrait l'interdit fondamental « tu ne tueras pas ». Et tous les médecins, pratiquement, tous ceux que je connais, sont pour que cet interdit soit maintenu. Ce qui me frappe beaucoup, vous voyez, c'est le contraste entre l'opinion publique superficielle, c'est le niveau des sondages d'opinion, qui est plutôt favorable à ce qu'on appelle l'euthanasie de manière extrêmement rapide, et puis le monde médical. Le monde des médecins, des infirmières est très réservé parce qu'ils pensent que la loi actuelle de 2005, la loi dite Leonetti, préserve un bon équilibre. D'un côté, on s'oppose à l'obstination déraisonnable et puis de l'autre, on ne dit pas non à des soins qui pourraient entraîner la mort, mais le but n'est pas de donner la mort. Le but est d'abord de soulager la souffrance. C'est très différent. Donc bien souvent, on joue sur les mots, on appelle euthanasie le soulagement de la souffrance, alors que certains pensent en fait à suicide assisté.
Alors souvent, les polémiques se concentrent sur le mot euthanasie, mais est-ce que les pouvoirs publics font assez en ce qui concerne les soins palliatifs ou l'accompagnement des malades en fin de vie ?
Il paraît que non. Donc un des soucis qu'on a en France, bien sûr, c'est que nous avons une loi très équilibrée qui a été votée en 2005 à l'unanimité, ne l'oublions pas, donc qui prévoit le soulagement de la souffrance et qui s'oppose à l'obstination déraisonnable. Simplement, donc, la seule issue, ce serait la mise en œuvre réelle de soins palliatifs. Et parfois, en France, on confond soins palliatifs et arrêt des soins curatifs. Et il ne suffit pas d'arrêter les soins pour vraiment enclencher les soins palliatifs. Ça suppose un vrai accompagnement des personnes, attention à leurs besoins, etc. Et il paraît qu'en France, les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Je crois qu'on n'est pas le seul pays, mais effectivement, je crois que c'est le cas.
En ce qui concerne le cadre législatif, qu'en est-il de la recherche sur les embryons ?
Donc là aussi, c'est un sujet de préoccupation parce que la loi actuelle, donc, telle qu'elle a été votée en juillet 2011, réalise un certain équilibre dans la mesure où on maintient le principe de l'interdit de l'embryon et on autorise quelques dérogations pour la recherche. Ces dérogations sont vraiment dans des cas limites où, de toute manière, l'embryon va être détruit, il est in vitro, sans projet parental, et elles sont en nombre limité, puisqu'il y en a eu, je crois, moins de 200 sur 10 ans. Et donc, je trouve que l'équilibre actuel est assez bon, parce que je trouve qu'affirmer le maintien de l'interdit est une bonne chose. Parfois, je dis que tant que l'interdit est exprimé, eh bien, l'essentiel est sauf. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'un embryon n'est pas de la matière, n'est pas une chose, n'est pas un objet, n'est pas instrumentalisable. On affirme le principe d'un certain respect de l'embryon. Qu'après, donc, dans certains cas, des dérogations puissent avoir lieu, ça peut se comprendre. Et actuellement, tout un courant de la pensée française, donc, qui serait pour la libéralisation totale de tout cela, et donc, qui serait pour l'affirmation par la loi de l'autorisation, a priori, de recherche sur l'embryon. Ça me préoccuperait parce que ça signifierait que dans la loi elle-même, qui a une portée symbolique assez importante dans l'esprit des Français, bien sûr, eh bien d'avance, l'embryon serait instrumentalisable. Et donc, j'espère que ça ne passera pas.
Est-ce que les électeurs peuvent vraiment se faire une opinion sur ces sujets qui sont assez techniques ? Et est-ce que, en fait, ils ne réfléchissent pas simplement de manière instinctive, sans vraiment avoir les éléments en main pour pouvoir prendre de véritables choix ?
Oui, absolument. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un grand écart, bien souvent, j'ai remarqué, entre l'opinion publique et puis les spécialistes. On l'a remarqué pour la gestation pour autrui, on le remarque pour l'euthanasie et pour bien d'autres sujets, même par exemple pour l'adoption par les couples homosexuels. Donc l'opinion publique est acquise parce qu'elle est très sensible aux campagnes médiatiques, aux petits sujets du journal télévisé du soir qui présente toujours les choses sous un angle très sympathique, très orienté. Donc l'opinion publique est très versatile, alors que les spécialistes, donc ceux qui travaillent au contact des enfants, les psychologues, les médecins, les infirmiers, infirmières, eux ont beaucoup plus de réticence et voient beaucoup plus les limites qu'il faut poser. C'est bien le problème, c'est que la loi a comme fonction de poser des limites, d'affirmer donc des valeurs communes à un pays. et pas seulement de tout libéraliser.
Il y a une véritable bataille des valeurs, selon vous, qui s'exprime au cours de cette campagne électorale ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, une philosophie du droit, c'est certain. Il y en a vraiment pour lesquelles le droit devrait uniquement garantir les libertés individuelles. Je dis bien individuelles. Donc, ce qu'on accorde à un couple, il faudrait l'accorder à un autre couple, peu importe qu'il soit homme ou femme, etc. Donc, c'est un point de vue que j'appellerais ultra-libéral, qui paradoxalement est souvent affiché à gauche. Donc, les gens de gauche ne se rendent pas compte que parfois ils sont ultra-libéraux pour ce qui concerne la morale et les mœurs. Et puis, en face, donc, il y a une philosophie du droit, qui est parfois taxée de conservatrice, qui me paraît, elle, donc, plus sensible aux limites qu'il faut poser au bien commun, aux valeurs communes, si l'on veut employer ce mot. J'aime pas trop le mot valeur, mais au bien commun qu'il faut sauvegarder, au rang desquels je mets, par exemple, le fait qu'un enfant ait un père et une mère, et qu'il y ait une continuité entre la procréation et la naissance. La cohérence de la filiation, par exemple, ça en fait partie des biens communs. Et sinon, on risque d'aller vers un éclatement de la filiation et un éclatement de la famille, au fond.
Est-ce que ces thématiques sont figées ou bien elles peuvent évoluer avec la société ?
Actuellement, on voit beaucoup d'évolutions culturelles dans le discours, dans les mentalités. La culture, donc, est de plus en plus relativiste et la culture prône de plus en plus la dissociation entre les différentes dimensions de la personnalité, de la filiation, de la famille, etc. Donc, la culture, elle, évolue beaucoup. Et ce qui me préoccupe d'ailleurs, mais je crois que les réalités fondamentales restent les mêmes. Je pense que la naissance, par exemple, reste un enfant né du corps d'une femme, et il était conçu par un homme, et il a un père homme masculin, une mère femme féminine. Il y a des réalités, notamment corporelles, qui demeurent, qui sont un petit peu le roc de la réalité, et c'est précisément donc ce qui me préoccupe, c'est que si la culture se déconnecte trop de ces réalités, eh bien cela risque d'engendrer de grandes souffrances, à commencer par les enfants.